carnet de campagne. Bonjour. Depuis un moment, j'aspirais à rencontrer une personne qui trace un sillon en faveur de l'agroécologie et de la permaculture, ce que certains considèrent comme un jeu peu rentable ou ridicule face aux entreprises agroalimentaires. D'autres l'envisagent comme une voie de sortie au tout chimique, une voie de salut vers une alimentation saine et relocalisée. Parmi ces autres, il y a Maxime de Rostelan, concepteur des fermes d'avenir. Son premier lieu d'expérimentation se trouve en Indre-et-Loire, ce qui implique que nous fassions un pas de côté par rapport à notre feuille de route cette semaine dans l'Allier. Belle figure, beau discours, l'homme a du charisme, on peut être séduit. Comme on peut émettre des doutes, il me restait donc à découvrir la légitimité de sa démarche en faveur des alternatives paysannes. À noter que Ferme d'Avenir a 5 ans d'âge seulement, mais recueille de nombreux suffrages partout en France. Aujourd'hui, donc, les carnets habitués à mettre les pieds dans la terre vont mettre un peu les pieds dans le plat avec notre invité.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Maxime de Rostelan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porteur des fermes d'avenir. On va rappeler le contexte, mais vous avez été ingénieur. Comment l'ingénieur que vous avez été est devenu agriculteur, enfin paysan?
Paysan. En fait, je suis ingénieur, mais pas agronome, je suis ingénieur plutôt en chimie. Et j'ai fait un tour du monde sur le thème de l'eau. Donc pendant 2 ans, je suis parti en camion avec 2 amis. On a écrit un bouquin sur les problèmes d'eau dans le monde. Et en rentrant, j'ai bossé dans l'éducation au développement durable. Donc j'ai dirigé la maison Dérol, pas Erol, hein, mais Dérol, qui est connue pour ses planches pédagogiques qui ont décoré les salles de classe pendant plusieurs générations, pour ceux qui se souviennent.
C'était magnifique.
Voilà, avec la carte de France, le corps humain, etc. Et Louis-Albert de Breuil, qui est donc le prince jardinier, puisqu'il a créé le conservatoire de la tomate en Touraine, avec 700 variétés de tomates, je vous invite à venir visiter. Louis-Albert de Breuil voulait remettre au goût du jour ce type de pédagogie par l'image, mais sur des enjeux de développement durable. Donc j'ai dirigé une collection de planches. On a créé plus de 200 planches, que des affiches en gros sur des sujets aussi variés que la biodiversité en ville, le biomimétisme, l'énergie éolienne ou que sais-je. Et c'est dans ce contexte que j'ai découvert la permaculture. Et en 2010, on a fait venir Janine Benyus, qui est une gourou du biomimétisme. Le biomimétisme, pour vos auditeurs, c'est...
Faites gaffe à gourou, parce que tout de suite, on va me dire « Ah oui, mais il entre dans une secte.
Ouais. »
On a eu droit à Pierre Rabhi, membre d'une secte.
Vous avez raison. Ouais. Non, mais c'est une gourou dans le bon sens du terme. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui entraîne beaucoup de monde. Elle évangélise énormément de gens sur le biomimétisme. On a traduit un bouquin qui s'appelle biomimétisme, et qui dresse un petit peu le panorama de tout ce que la nature a à nous enseigner dans plein de domaines. Les transports, l'énergie, la santé et l'agriculture. Et en fait, l'agriculture, c'est le premier chapitre et c'est le plus conséquent. Et elle le clôt, elle le conclut en disant, si on est réellement convaincu qu'il faut changer de monde, alors l'agriculture, l'alimentation, c'est la première brique, le socle sur lequel ériger ce nouveau modèle. J'ai plongé vraiment sans retour possible dans l'agriculture. Et un chiffre qui m'a vraiment, moi, sensibilisé, c'est l'efficacité énergétique pour produire notre nourriture. En 1940, avec une calorie d'énergie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Donc on convertissait un petit peu d'énergie fossile en beaucoup de nourriture, 2,5 fois plus. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles en France et 15 aux États-Unis pour faire une seule calorie alimentaire. Et en fait, ça, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que tant que le baril vaut 50$ ou 70$, on s'en sort. Le jour où le baril vaudra 200$, on ne saura plus se nourrir. Et en fait, c'est quand même un petit peu une insulte à l'intelligence humaine que d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents pour produire de la nourriture, surtout quand on se dit une société développée. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah,
avec un impact effroyable.
Un impact effroyable sur le dérèglement climatique, sur la biodiversité. 52% des animaux sauvages ont disparu en 40 ans, 80% des insectes en France en 30 ans. On est quand même un petit peu en train de vivre une extinction massive des espèces, et ça, c'est le fait principalement de l'agriculture industrielle mondialisée, etc. Et donc, c'est en découvrant tout ça, je me suis dit, bon, il faut faire la révolution dans l'agriculture. Je me suis donc formé en maraîchage bio, j'ai fait un BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, et j'ai créé le projet Ferme d'Avenir avec comme projet originel de créer une ferme expérimentale en Touraine d'un hectare et demi à Montlouis-sur-Loire, qui tourne encore aujourd'hui. Et maintenant, en fait, nos actions se sont multipliées parce que c'est un problème systémique. Il faut évidemment de la production, mais il faut de la formation, il faut du financement et il faut beaucoup de lobbying.
On a de quoi être en colère. Avant de parler dans un instant de la colère partagée que nous avons, vous voulez prouver que l'agroécologie est plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Il ne s'agit pas d'un enrichissement, il s'agit surtout d'une rentabilité de son travail, et il s'agit d'avoir une rémunération sur sa production. On peut vivre mieux de l'agroécologie que de l'agriculture conventionnelle ?
Alors, bien sûr, je dis pas que c'est simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agriculture, moi, je l'appelle pas ça agriculture conventionnelle parce que j'ai pas signé de convention. Donc, moi, je l'appelle l'agriculture industrielle et chimique, ultra mécanisée. Donc, l'agriculture chimique, aujourd'hui, n'est pas rentable. faut se le dire. Elle est subventionnée directement par la PAC à hauteur de 10 milliards par an, et indirectement subventionnée parce qu'en fait, elle a externalisé tous ses impacts. Les algues vertes, c'est pour nos impôts. Les inondations, c'est pour nos impôts. Les problèmes de santé, c'est pour nos impôts. La désertification rurale, c'est pour nos impôts. En fait, non, ça ne devrait pas être pour nos impôts. Ça devrait être répercuté dans le prix des produits de l'agriculture industrielle, auquel cas, nous comprendrions que manger bio, ça coûte moins cher que manger industriel. Autrement dit, l'agriculture industrielle, ce modèle agricole, nous coûte collectivement très cher. Une fois qu'on s'est dit ça, la question est de savoir est-ce que l'agroécologie est rentable. Eh bien en fait, si jamais on a une comptabilité juste financière, effectivement, on se dit, bon, un agriculteur chimique qui d'ailleurs ne gagne pour un tiers d'entre eux que 350 euros par mois, hein, donc malgré ce qu'on vient de dire avant, l'agriculture chimique n'arrive pas à faire vivre ses artisans, quoi. Artisans.
Ces artificiers,
voilà. L'agroécologie, quant à elle, on sait qu'il y a personne qui devient riche en étant maraîcher. Le salaire moyen d'un maraîcher, c'est 700 euros par mois, donc c'est pas non plus le Pérou. Mais ça, c'est dans le cas où on ne considère que les impacts financiers. C'est un combat qu'on mène auprès des députés, des parlementaires, etc. C'est, il faut compter les choses différemment. Le vrai levier de la révolution, il est comptable. Si jamais on intégrait dans le compte de résultats et dans le bilan comptable des fermes, les impacts sur la nature et sur l'humain, eh bien, on constaterait que l'agroécologie est bien plus rentable que l'agriculture industrielle.
Maxime de Rostelan, coordinateur du projet Ferme d'Avenir, qui est aussi président de la plateforme Blue Bees, plateforme de financement participatif, invité des carnets de campagne. J'annonçais la colère, mais vous l'avez déjà exprimée d'une certaine manière. Alors, il y a une autre colère qui pourrait poindre à l'horizon, parce que vous êtes maintenant soutenu par le groupe SOS, Jean-Marc Borello, proche du pouvoir actuel, avec aussi le grand programme enfin, tel qu'il se présente, hashtag French Impact, à se dire, ah, ça y est, Maxime de Rostelan est du côté du pouvoir, maintenant.
Aïe, aïe, aïe. Non, ouais. Pas du tout. Moi, je suis un militant. Je suis un militant entrepreneur.
Bah oui, mais on peut avoir des doutes.
Des doutes sur...
Bah, sur votre intégrité, donc vous allez du côté du plus fort.
Ah non, en fait, on a rejoint le groupe SOS en mars 2016, alors que la campagne n'était pas encore lancée, hein, d'ailleurs. Le groupe SOS, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui ne verse pas de dividendes, d'accord ? Donc il y a 16 000 salariés, ils font surtout de la délégation de services publics. Et ils nous ont proposé de rejoindre le groupe parce qu'en fait, ils disposent d'un GIE, d'un groupement d'intérêt économique, qui nous aide sur toutes les fonctions support, l'administratif, le juridique, les salaires, les RH, etc. Et en fait, Ferme d'Avenir, quand je l'ai créé, on était deux, puis trois, et puis à un moment, je me suis dit, bon, si on veut changer d'échelle, il faut que je sois plus robuste. Et cette intégration au groupe SOS nous a apporté, en tout cas, une colonne vertébrale, c'est-à-dire un truc vraiment rigoureux, carré, et des reins, c'est-à-dire, on a fait le tour Ferme d'Avenir l'année dernière, on a pu visiter 220 fermes, on est parti 3 mois, c'est un projet qui a coûté 1 million d'euros, on a perdu un peu d'argent là-dessus, grâce au groupe SOS, on n'a pas plié l'association. Donc, structurellement, c'est très important pour nous de faire partie d'un groupe comme celui-ci. Après, le fait que Monsieur Borello soit proche du pouvoir, c'est son affaire et il n'implique pas les établissements de son groupe dans ses démarches politiques.
Enfin, il y a toujours une ambiguïté, Maxime. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes très très proche du pouvoir et que vous avez certains des services, comme vous les exprimez, de votre groupe qui sont soutenus par le programme défendu par le Haut Commissaire à l'économie sociale et solidaire, on se dit ça se passe dans la même famille.
Avant d'être groupe SOS, j'étais déjà très proche de Nicolas Hulot. Lorsque Nicolas Hulot était ministre, on lui a rien demandé. Hein. Enfin, il n'y a pas eu une demande de subvention ou quoi, donc on a été tout à fait intègre là-dessus. Et donc, du coup, par rapport au président, moi, je me suis rapproché, entre guillemets, du président via une lettre ouverte que j'ai écrite le lendemain du premier tour, lettre où j'interpellais le président, lui expliquant que je n'avais pas voté pour lui et que s'il voulait gagner des voix sur la gauche et qu'il voulait essayer de vraiment prendre les sujets dans le bon sens, il fallait qu'il s'intéresse au sujet que je lui soumettais dans la lettre. Il m'a répondu à cette lettre, et puis il m'a présenté ses services. Donc, j'ai effectivement été mis en contact avec les conseillers, que ce soit à Matignon ou à l'Élysée. Pour autant, ça veut pas dire que je valide tout ce qui se fait au gouvernement.
C'était pour répondre aux critiques qui pouvaient ressortir à partir du moment où on entre dans un réseau grand promoteur des alternatives et des alternatives économiques. Vous lancez un projet, un programme, un vaste programme, Maxime, avec les fermes d'avenir, de formation aux pays-culteurs. Alors, j'aime beaucoup cette notion pays-culteur, mais ça couvre quoi ? Ça veut dire quoi ?
En fait, on constate qu'il y a énormément de porteurs de projets qui sont des néo-ruraux. Aujourd'hui, 50% des gens qui veulent s'installer et devenir agriculteurs agriculteurs ou paysans sont des néo-ruraux. Et il y a un super réseau d'associations locales, que ce soit les GAB, donc les antennes locales de la FNAB, donc la Fédération Nationale d'Agriculture Bio, il y a les ADAR, le réseau CIVAM, les réseaux Impact, etc., qui font un super travail d'accompagnement sur le terrain. Néanmoins, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Il faut plus de gens comme ça. Et en fait, il y a aussi quelque chose, c'est que la culture des néo-ruraux n'est pas la même que celle des paysans ou des porteurs de projets d'il y a 10-15 ans. Et donc, il faut, à mon avis, doter ces animateurs de territoire de nouveaux outils, de nouveaux codes de langage, etc. Et donc, le pays-culteur, il a deux objectifs. Le premier, c'est donc d'aider les porteurs de projets. Et de l'autre côté, c'est d'aider l'aval. Parce qu'en fait, on constate qu'il y a 20% d'augmentation de la demande en bio local par an, et seulement 10% d'augmentation de l'offre. Comment va répondre la GMS, la grande distrib? Soit elle dit, il n'y a pas assez, donc on va aller chercher en Pologne ou en Espagne ou ailleurs. Soit elle dit, il faut créer des filières, encourager les gens à s'installer. Et pour ça, ils viennent nous voir, des grandes enseignes viennent nous voir. Oui, est-ce que vous n'avez pas des produits ferme d'avenir? Non, on n'a pas de produits ferme d'avenir. En revanche, si vous sentez un appel d'air de la part de vos clients, il va falloir que vous les transformiez en projets de terrain. Et nous, on peut vous aider à former et à outiller des gens qui vont être des catalyseurs de projets alimentaires territoriaux. C'est donc des pays-culteurs. Et effectivement, donc là, on en est à la troisième promotion de pays-culteurs. On en a formé 35. Sur les 35, il y a déjà 11 fermes qui ont émergé. Et donc, l'année prochaine, on recommence en février.
Du 25 février au 21 juin. Attention, la date de clôture, c'est dans quelques jours. C'est le 16 novembre, donc il faut vous dépêcher. Vous allez trouver le lien pour vous inscrire sur le site de Ferme d'Avenir. Ferme au pluriel d'avenir.org pour l'adresse bluebees.fr et puis une lecture, on a 20 ans pour changer le monde de Maxime de Rostolan aux éditions Larousse. Merci Maxime.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.